Et oui, c'est la bande originale, une heure de bon esprit et de mauvaise foi. Comme on aime, quoi. Au menu, Laure Calamy, Eric Judor, Tahar Rahim, Alix Poisson, Jonathan Cohen, Bérangère Krief, Grégory Fitoussi et la bande au grand complet. Le meilleur de la bande originale, c'est parti.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Tel qu'il est, il me plaît, il me plaît.
1880.
C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un bassin, mais je l'aime.
Il est bancal.
Frêle.
Vous nous expliquer quelles images vous avez en écoutant Frêle là maintenant? Pourquoi vous choisissez Fréhel pour 98?
Fréhel parce que d'abord j'avais fait un spectacle au conservatoire avec mes potes. On avait fait une sorte de cabaret où il y avait, c'était un peu fourre-tout et il n'y avait pas de metteur en scène. On avait vraiment fait, c'est ma première un peu création collective. Et donc je faisais un truc avec cette chanson de Fréhel pour laquelle j'ai une passion. Voilà, parce que c'est un peu un mélange de, je sais pas, Amy Winehouse avec Renaud, quoi. Ouais,
Avec Renaud.
Bien sûr. Hein. Non, mais je veux dire, pour l'époque.
Ça raconte des histoires, en tout cas.
Ouais. Et puis elle a. Non, et puis sur sa vie. Enfin, je veux dire, elle a fini, bon, très mal. Elle avait chanté Je veux de la coco. Elle prenait des tas de drogues, etc. Et puis, elle a eu une vie,
Déjantée.
Déjantée complètement, quoi. C'est.
Piaf, la sexe.
Piaf
l'admirait beaucoup.
Et puis c'est un peu Paris, l'état de Paris, l'esprit parisien, puisqu'en en 98, vous quittez la province, vous le dites dans les interviews, j'aime bien ce côté, je quitte ma province parce que je monte à Paris pour la rue Blanche, puis le conservatoire, vous l'avez évoqué, le conservatoire pendant 3 ans, et on va retrouver 2 noms très très importants. C'est Daniel Mesguich et puis une certaine Catherine Yeagel.
Bah oui,
déjà, déjà
exactement.
Là, déjà là, vous êtes son élève.
Exactement, c'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai voulu voir si j'étais solide parce qu'elle avait la réputation d'être très, très dure, surtout avec les filles.
Ah, tester en fait.
Elle va se confronter. Et alors, avec Catherine Yeagel,
c'est génial. Et puis en plus, moi, ce que j'aimais, c'est qu'on pouvait vraiment tout se permettre. On pouvait jouer des rôles d'hommes, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, quoi. Moi j'étais impressionnée. Il y avait à disposition des costumes, un technicien qui était là pour nous faire la lumière, pour faire nos scènes et les présenter aux profs. Enfin, moi je trouvais ça incroyable, quoi. J'étais c'est des moyens dingues, quoi, le conservatoire. Et puis après, c'était rencontrer aussi des gens de ma génération. Ce qui s'est fait. En fait, moi c'est surtout ça que j'ai fait après qui m'a plu, c'est avec Vincent
Macaigne.
Y en a plein avec qui j'ai travaillé. Ma pote Léna Bréban, avec qui j'ai fait du jeune public. Thomas Blanchard, enfin il y en a plein, quoi, avec qui c'est mes amis, et ça a été des rencontres importantes, quoi.
Oui, vous expliquez l'intérêt
de l'école comme
ça.
Là-dedans. Les profs, c'était super. Puis j'ai rencontré Olivier Py aussi, j'ai fait son atelier. Ça a été très très important pour moi. Ça a été quelque chose de... Enfin voilà.
Non, mais vous le racontez bien dans pas mal d'interviews. Ce côté, c'est un vivier aussi, c'est une façon de se rencontrer. Et ensuite, si on n'a pas de boulot tout de suite, de créer des projets, des collectifs, continuer à avancer, montrer son travail, montrer qu'on sait jouer et pratiquer, en fait, pas attendre.
Non. Mais ça va, j'ai plutôt travaillé assez vite, mais en tout cas, ça permettait ça aussi, ce fameux régime spécial intermittent. C'est que, du coup, de pouvoir, quand d'un coup on avait un mois, comme on avait on avait nos heures, on pouvait se permettre. On s'est barré avec Jean-François Auguste, on a été on a répété vraiment un spectacle dans un garage, quoi, mais vraiment on l'a répété, on était dans la poussière à faire des impros, des trucs, et après on l'a tourné dans des festivals à Strasbourg, enfin je sais pas, dans plein d'endroits, des festivals vachement bien, le Maillon, etc. Et c'est comme ça aussi, je pense que ça envoyait des signaux, moi, aux gens de ma génération, que c'est comme ça que j'aime bien travailler, et c'est comme ça qu'on se rencontre aussi, quoi, et du coup qu'on construit son désir et ce qu'on a envie de faire, et voilà.
En 98, Eric Judor, vous écoutiez.
C'est les
DMS.
Il y a du Edith Piaf dedans.
C'est le beat d'Edith.
Il y a du Renaud.
Il y a de la coke en tout cas.
Et 98.
Énorme. Il faut juste parler quand même DMX. Énorme, énorme succès. C'est l'un des plus gros rappeurs. Je crois qu'il a eu des
qui est grand-père aujourd'hui.
Non.
Sans blague. Si, il est grand-père et il vient de repartir en tôle parce qu'il a 9 ou 11 enfants avec autant de femmes différentes. et qui paye pas ses pensions et du coup il a plus d'argent, il a tout claqué et du coup là maintenant il
après avoir vendu près de 100 millions d'albums il a plus rien.
Ruiné,
ça part vite, hein.
il fait des allers-retours en prison.
Et puis c'est un comédien aussi, il a joué dans plein de films et séries télé,
extrêmement charismatique, enfin sa voix, sa façon de rapper, il y avait un truc ultra violent qui représentait le ghetto et la souffrance afro-américaine, la lutte contre les, enfin pas contre, mais en tout cas la résistance à l'oppression des flics en fait, aux États-Unis. Et donc c'était pas loin après Rodney King et toutes ces violences à Los Angeles, les répressions policières qui sont d'actualité encore aujourd'hui.
Pourquoi ce rap américain vous parle plus qu'un rap français à ce moment-là?
Parce qu'à ce moment-là, il y avait
NTM.
Il y avait NTM, il y avait Lionel D, il y avait des bons rappeurs, mais j'étais de toute manière fasciné par les Anglo-Saxons. Ma génération, on regardait l'Amérique, ça nous faisait rêver. On était bercé aux séries américaines et donc à la musique américaine, mais j'écoutais aussi les musiques californiennes, hein, douces.
En 98, Leïla.
C'est H, la sitcom H sur Canal. Vous, bien sûr, Jamel Debbouze, Ramzy, vous écrivez.
Benabar.
Cette série, il fait partie de l'équipe.
Je l'ai créée avec Xavier Mathieu et Kader Aoud. Et ensuite, donc on a écrit les premiers épisodes, on a écrit la Bible, les personnages, les situations dans lesquelles ils devraient se trouver, les décors principaux, et ensuite on l'a filé à Eric Laven. Et notamment Benabar, qui a écrit parmi les meilleurs épisodes, excellent auteur.
C'est vrai.
C'était un duo Nicolini-Proust. C'était les meilleurs. Quand on recevait les scénarios de eux, il y avait très peu. On avait une journée de lecture.
Nicolini étant le vrai nom de Benabar.
Et moi, du coup, vous pouvez le.
Vous pouvez l'embêter.
Bruno Nicolini, 16 rue des Acacias.
Un nom.
voilà, mais bon, je peux pas en dire plus.
Non.
B32-7.
Le troisième étage. Et donc, en tout cas, quand on recevait les scénarios au début de semaine, signés de ce duo, on savait qu'on avait très peu de choses à changer. On aimait beaucoup improviser sur le texte, mais quand on recevait cela, il n'y avait quasiment rien à toucher.
Et l'idée initiale, elle vient d'où? À quel moment? Qui? Vous vous réunissez et vous
avez Jean-Pierre Ramsay, le producteur de la série, qui reçoit un appel de Canal. Canal demande à toutes les boîtes de production de France de proposer un projet. Ouais. Ils veulent passer à la série live, c'est-à-dire une série tournée en public.
La sitcom façon Friends.
Jean-Pierre Ramsay, je crois, contacte Kader Aoun. Kader Aoun m'appelle et Xavier Mathieu. Et tous les trois, on écrit ce projet.
Et ça a duré combien d'années?
Pas longtemps, 4 ans. On a fait 4 saisons.
Marrant, extérieurement, on a l'impression que ça a duré, mais 15 ans tellement.
Mais non, redive de malade.
Ouais, c'est génial.
Mais ça s'est arrêté trop tôt.
C'est pas mal, hein, de faire. On en a fait 71 des épisodes, C'est quand même beaucoup. Et c'est bien de le laisser là comme ça dans son.
Avec le retour de Burger Quiz, ça vous amuserait aussi de refaire H?
Non.
Merci. 2003, 2004.
Je suis passé à Platane en fait.
Ouais.
Ça tue un peu H. C'est-à-dire H, ça représente vraiment un style de comédie d'une époque. Refaire H aujourd'hui, ça ferait vieux con. Ou mec qui a pas d'idée.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Vous écoutiez Aznavour à quelle occasion?
J'arrivais sur Paris, je me souviens, et je sais pas, il y a quelque chose de... Bon, c'est formidable Aznavour dans tous les cas, on peut en parler pendant des heures, mais... Il y a un truc qui m'apportait de nostalgique en même temps, de fort.
Ça raconte des histoires.
Ça raconte des histoires, puis c'est beau. Puis son histoire à lui est très belle aussi. Et elle rejoint un peu celle qu'on a envie de vivre, ce succès-là. Et
c'est un peu comme un héros de roman d'apprentissage. Il monte à Paris, il emménage à Paris, et là, c'est à nous de Paris, et mon nom sera en haut de l'affiche, quoi, en gros.
Il y a un peu de ça, mais c'est vrai.
C'est un peu l'idée, ça galvanise, quoi.
Absolument. C'est vrai, lui, il a les mots, je trouve, il a les mots, il a l'enchantement, il me... Quand je l'écoute, ça me motive, il fait soleil. J'adore.
Il fait soleil tout de suite. La météo change avec Aznavour. En gros. Alors, on a évoqué votre venue à Paris, les petits boulots, les cours, des années un peu tendues, on va dire ça comme ça. Mais très vite, vous faites des rencontres notamment une rencontre qui est importante sur un tournage, c'est Jacques Audiard. Mmh.
En effet, oui, c'est...
Sur quel tournage ?
Sur La Commune, la série La Commune, qui est réalisée par Philippe Tribois et écrite par Abdelraouf Dafri, qui est... qui
a écrit pour Canal.
Pour Canal, exact. Mmh. Qui a écrit le scénario original d'un prophète. Et un jour, Jacques vient lui rendre visite. Bon, je ne sais pas pour quelle raison, il devait se parler certainement. Hein. Et finalement, au coup du destin, ou hasard, appelez ça comme vous voulez, une séquence est annulée. Et finalement, je me retrouve avec lui dans une voiture pour revenir sur Paris, puisque c'était en banlieue. Et je m'en souviens très bien, je savais ce qu'il préparait, j'avais envie d'en être, et je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'était de la fermer.
Ah, c'est vrai, ouais. La fermer, c'est-à-dire
ne rien dire.
Ne rien
juste
dire.
Bonjour.
Face à Audiard.
Voilà.
Ouais, pas lui dire l'envie que vous aviez de participer au projet,
là,
surtout
non,
pas.
Non,
surtout vous n'êtes pas du genre à dire à quelqu'un, j'aime beaucoup ce que vous faites et j'aimerais travailler avec vous.
Mais si, mais il y a des instants pour ça. Non, d'accord. Travailler avec vous, je ne le dis jamais, ça. Je
travailler pour vous.
Non, c'est pas ça. C'est je pense
vous.
Qu'on tue le désir
sur vous.
Non, je pense que ça peut tuer le désir, ça peut enlever le désir. Parfois, dès lors qu'on sait que quelqu'un nous admire et nous désire, ben ça peut s'en aller.
C'est vraiment du désir, ouais. Parce que Audiard parle d'un coup de cœur, le coup de foudre. Non, mais c'est des choses qui arrivent pas souvent dans une vie.
C'était dans
non, surtout à l'arrière d'une voiture.
Ça, je sais pas.
Si.
Mais c'est vrai que ça n'arrive pas souvent. Je préfère maîtriser. Mais oui, c'est très rare.
Et vous, le coup de cœur était aussi réciproque, parce que c'est ce qui est beau dans un coup de cœur, c'est quand on tombe tous les deux fous l'un de l'autre, que ce soit amoureusement ou professionnellement.
Alors le coup de cœur pour son cinéma, je l'avais eu avant, avec Sur mes lèvres.
Ouais.
J'avais pas vu Le héros très discret avant, mais quand je vois Sur mes lèvres, voilà, je suis fasciné, j'adore. Et ça devient mon réalisateur français préféré à ce moment-là.
Jay-Z avec Alicia Keys, c'est ce que vous écoutiez en 2010. Guillaume, fais pas seulement de réfléchir en écoutant Jay-Z et Alicia Keys.
Jay-Z, on l'aime beaucoup, il écoute d'ailleurs en plus l'émission.
C'est ça, bien sûr, régulièrement.
Alicia Keys, forcément, on pense à toi, Nagui, ouais, avec cette scène incroyable. C'est vrai.
Quand vous écoutez.
Vous avez vu cette scène ?
Ouais.
Quand elle est en train de chanter au piano, à Tara.
Elle a fait un piano voix, Tara.
Mais il faut voir cette vidéo. Là, vous allez être envie d'être Nagui toute votre vie.
Là, t'as envie de t'aller chaud. J'ai eu très chaud. Très chaud. Vous écoutez cette musique, vous voyez quoi comme image ? Vous vous retrouvez où ?
Je me souviens que ce morceau sort. D'abord, il est formidable pour tout le monde. On a besoin d'être acteur pour ça. Il y a eu Sinatra pour la thématique de New York.
New York, New York.
Voilà. Et lui, il en fait un deuxième hymne. Fallait le faire.
C'était le clip avec les marches rouges sur Times Square, hein, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, exactement. Ouais. Et c'est la période où on va aux Oscars.
Et ouais, c'est une année de fou.
Ouais.
Déjà, c'est deux Césars. César du meilleur espoir masculin, du meilleur acteur pour votre rôle dans Un prophète. Je crois que l'Académie va même un peu changer les règles après pour éviter qu'il y ait des doublés de ce type-là.
Il a eu l'année suivante aussi.
Non, mais c'est complètement fou. C'était complètement fou, en fait. C'est quel message qu'on vous envoie de prix comme ça ? On continue comment à vivre après le lendemain ? On est en train d'écouter Jay-Z et Alicia Keys dans la rue et on marche en cadence sans avoir la sono pourtant dans les oreilles.
On est très heureux, ça c'est sûr. J'étais hyper heureux c'est hyper encourageant, c'est un énorme bienvenue, comme quand on revient de loin à l'aéroport puis on a quelqu'un qui dit
welcome, avec le nom et tout.
Voilà.
C'est mon chauffeur Uber.
Il a besoin d'oseille. Et du coup, ça c'est formidable. Et après, bon, c'est vrai que c'est gros, c'est un tourbillon d'un coup. Et j'ai pris un peu peur, moi, parce que une fois de plus, je sais pas, j'ai pas envie de devenir un con. J'ai pas envie d'avoir la grosse tête. Alors je me cache un peu.
Quoi la définition d'un con ? Parce qu'a priori, vous ne l'êtes pas. Donc, comme le devenir, ça voudrait dire quoi ?
Accepter le pouvoir qu'on vous donne à ce moment-là, déjà, je crois.
Se croire.
Et s'y croire.
Avoir
la grosse tête, ouais. Penser qu'on est arrivé et qu'on est le meilleur. C'est pas le cas. Ça aurait été bête.
Parce qu'il y a deux Césars, il y a quatre autres prix. Le Globe de Cristal, le Prix Lumière, le Prix Patrick Devers, l'Étoile d'Or. Enfin bon, c'est une radia, mais insensée.
Ouais, pas se voir trop beau, quoi.
Alors que franchement, dans le film, c'était pas...
Ouais.
C'est bon, ça. Appelez Guillermo si vous avez un doute de grosse tête.
Non, c'était exceptionnel.
France Inter, la bande originale,
Le best-of.
Quand je pense à vous, Alix et Jonathan, je pense à vos carrières et précisément aux séries, aux apparitions télé qui vous ont fait entrer dans le salon des Français, et c'est pas rien, notamment celle-ci pour vous, Alix.
Bien sûr. Allez, les enfants, on débarrasse.
Ah non, mais j'ai déjà mis la table, c'est à Laetitia et Jules de débarrasser.
N'importe quoi, ça marche pas comme ça.
Mais y a pas de raison.
Non, mais moi j'ai pas mis la table parce que j'avais du travail.
Genre, mais c'est nouveau ça.
Bah oui, je suis pas une ratée moi.
Non, mais c'est toi la ratée, la espèce de bolos.
Gros connard.
Oh, 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 vous calmez les deux là.
Attends, non, mais attends, elle m'insulte et vous, vous dites rien.
Attends, mais c'est toi qui a commencé. Je m'en fous, je débarrasserai pas.
Bah, moi non plus.
Vous me saoulez les deux, vous montez dans votre chambre.
Allez, dépêchez-vous là.
Oh, c'est pas possible quoi.
Fatigue.
Faut rien leur demander.
Par en mode d'emploi, vous parliez tout à l'heure d'Arnaud Ducré. J'imagine que ça doit être assez joyeux sur le tournage de cette série, oui. Tous les deux. En matière d'impro, ça doit être pas mal aussi. Il y en a moins que...
Oui, il y en a. Ouais. Mais après, on est très bien servi au niveau des textes. Donc souvent, et puis on fait des lectures en amont. Ouais. Donc du coup, on prépare beaucoup. Mais oui, bien sûr. Bah oui.
Par en mode d'emploi, c'est depuis 2013. C'est un carton assez incroyable. Je le disais, vous faites vraiment partie du quotidien de beaucoup de Français, ouais, depuis de nombreuses années. J'imagine aussi qu'il faut arriver à casser, ou pas casser cette image, mais en tout cas la décaler pour faire autre chose. Est-ce que ça, c'est une problématique qui pourrait être la vôtre aujourd'hui en tant que comédienne?
C'est assez marrant parce que régulièrement dans les interviews, on me pose cette question, oui. Et je réponds toujours la même chose. Je dis, mais je n'arrête pas de faire des choses diamétralement opposé à ce truc-là. C'est-à-dire que si vous regardez, moi j'ai commencé avec l'affaire Courgeot, j'ai enchaîné sur Les Revenants, et tout en faisant Par en mode d'emploi, j'ai tourné une série pour la BBC qui s'appelle The Collection, là je viens de tourner une série pour Arte qui s'appelle Jeux d'influence, qui est une série politique où je fais une journaliste, je fais Budapest, voilà, enfin j'ai pas du tout l'impression de ne faire que ça,
au contraire. Non, je dis pas que vous faites que ça, non, mais j'ai simplement que le grand public, souvent, parce que c'est tellement fort aussi Par en mode d'emploi, que tous les exemples qui peuvent être cités en parallèle, c'est compliqué d'égaler un tel succès que Par en mode d'emploi, c'est vraiment le truc phare en télévision quand même.
Ouais, le succès.
C'est 4 millions de personnes tous les jours.
C'est complètement dingue. Mais après, ça permet aussi de faire d'autres choses.
Bien sûr.
Mais après, oui, évidemment, le succès est colossal.
Non, la seule véritable question, c'est pas dans l'esprit du public, c'est dans l'esprit des réalisateurs, des metteurs en scène, de se dire.
Pour le moment, j'ai plutôt de la chance parce qu'on me voit dans plein de choses différentes.
Et c'est le cas d'Arnaud aussi.
Bien sûr.
Et pour vous, vous disiez la dernière fois, Jonathan, que Serge Le Mytho, vous aviez un petit peu peur que ce personnage vous étouffe aussi, enfin en tout cas qu'on voit en vous que Serge Le Mytho.
Ouais.
Et donc.
J'ai dit ça, ouais.
C'est vrai que.
Enfin, c'est que des rôles de mytho.
Ça limite pas du tout. Quoi.
C'est toi qui les vois comme ça, finquez ton point de vue. Oui, ça pourrait. Après, j'ai pas si peur que ça parce que je dois quand même beaucoup de choses à ce personnage et ça, c'est assez cool. Mais là, effectivement, il y a une direction qui est en train de se prendre. Mm-hmm. J'ai accès, grâce à ce personnage encore, à des films de mieux en mieux, des réalisateurs, mais dingues. Et donc, du coup, ça prend. En fait, c'est des choses qui se font toute seule, tu vois, tout seul, c'est-à-dire que ça s'oublie au fur et à mesure, tout d'un coup, ça devient, Jonathan Cohen j'espère, en tout cas, que ce sera comme ça, dans ce rôle-là, ou on oubliera petit à petit Serge, mais j'ai pas encore envie de l'oublier.
Mais surtout, ce qui est marrant, excuse-moi, je te coupe.
Il y a un film qui va se faire dessus.
C'est vrai?
Ah oui, c'est vrai. Ah, génial, vous revenez à Serge, c'est génial.
On revient à Serge, on revient au basique.
C'est super.
et non, c'est très cool, donc on est en train de l'écrire avec les créateurs de Serge.
Ça serait mieux la bouche devant le micro.
Oui, c'est ça. Moi, on m'a toujours dit devant le micro. Je crois que c'était foutu de ma gueule. Okay.
Non, mais en plus, pardon, je te coupe, mais c'est parce que aussi, nous, on peut pas raisonner comme ça, parce que souvent, les gens voient à très court terme. Et en fait, nous, on voit à long terme. Et c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un comme Alexandra Lamy, que moi, j'aime énormément. Je pense que la terre entière s'est dit à un moment, ah là là, un gars, une fille, ah là là, un gars, une fille. Mais elle savait que, j'ai entendu une interview l'autre jour où elle disait, mais vous savez, moi, je suis très patiente et je travaille pendant ce temps-là. Et on travaille, on construit, oui, et on traverse d'autres personnages.
Alexandra Lamy, Jean Dujardin n'a strictement rien fait après la série.
Alexandra Lamy, parce que tout le monde disait, Jean Dujardin, ça va très vite, et Alexandra Lamy, ça ne va pas vite. Mais c'est faux. Et au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt, enfin voilà, la réalité a prouvé le contraire.
Oui, pas l'inverse.
Non, pas l'inverse. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais la carrière d'Alexandra Lamy est exceptionnelle.
Mais il y en a un mieux que l'autre.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Vous êtes bien sur France Inter, mais vous serez encore mieux après le live de Clara Luciani en duo avec Arthur de Feu Chatterton pour cette très belle reprise de « Puisque vous partez en voyage ».
Je vous remercie de m'avoir accompagné à la gare.
Non, mais vous plaisantez, c'est naturel, c'est ce qu'on fait avec les gens qu'on aime.
Non, vraiment, c'est gentil. Puis, tous ces cadeaux, ces magazines, ces cigarettes, ces chewing-gums.
Puis les petits biscuits là, que j'ai mis au fond du sac, j'ai oublié les biscuits.
C'était drôle.
C'est que je manque d'originalité. Moi, j'offre ce que tout le monde offre aux gens qui partent. Vous savez que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, je vais pas bien loin et puis je reviens dans 15 jours.
Alors là, 15 jours, pour vous, c'est rien, quoi. Vous n'allez pas compter les heures sans moi.
Oh, Arthur.
Puisque vous partez en voyage.
Puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages.
Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage,
j'ai préparé mon grand mouchoir.
Dans un instant le train démarre. Je resterai seul sur le quai. Me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage. De penser à moi tous les jours.
Et retourner dans notre cage. Pour mieux attendre mon retour.
Promis, maîtresse. Et voilà, vous y êtes. Une place tout à vous, bien tranquille. Sans voisin, sans vis-à-vis, personne. Personne pour vous déranger.
Eh bien, comme ça, vous ne serez rassuré. Je ne risque pas de faire de nouvelles rencontres.
Mais vraiment, alors, moi qui pensais vous faire plaisir, non, vous êtes incorrigible. Un peu d'isolement,
Arthur,
de quoi vous détendre.
Arthur.
Il y a une fenêtre, une grande fenêtre. Très grande fenêtre. Puisque vous partez en voyage.
Vous m'avez promis, mon chéri,
de vous écrire 14 pages
tous les matins ou davantage pour que je voie votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
Cette offre, je perds tout courage.
Et moi, je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, je sais pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens.
Venez,
j'ai mon amour pour seul bagage.
Et tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
C'était Puisque vous partez en voyage, reprise par Clara Luciani et Arthur de Feu Chatterton en live dans la bande originale. Ah, elle, ce serait tellement bien si elle avait du Chatterton sur la bouche. Alison Wheeler.
On est à 10 jours de la marche des fiertés LGBT à Paris. Vous le savez, les couples homosexuels ont le droit d'adopter en France depuis la loi Taubira en 2013. Mais spoiler, on leur met encore des bâtons dans les roues. À en croire les propos de la responsable du service adoption de Seine-Maritime, les homosexuels désireux d'adopter un enfant ne sont pas prioritaires et doivent s'ouvrir à des profils d'enfants atypique. What the fuck? Pas prioritaire, je sais qu'en France, la priorité est à droite, mais c'est pas une raison. Déjà que l'adoption, c'est un vrai parcours du combattant pour les couples hétéros. Mais là, pour les homos, c'est carrément sur un stage de survie avec Mike Horn et Christine Boutin. C'est quand même étrange de dire aux couples gays, vous avez le droit de vous marier, mais en revanche, vous n'êtes pas prioritaire pour adopter, d'accord? C'est comme si on disait, t'as le droit de vote, mais t'es pas prioritaire dans l'isoloir et à la fin, il te reste que des bulletins pour Jean Lassalle. Si on suit leur logique, en Seine-Maritime, imagine à la boulangerie quand tu vas acheter ton pain. Bonjour, je vous voudrais une tradition. Alors désolé, vous êtes homosexuel, vous n'êtes pas prioritaire. En revanche, si vous voulez, je peux vous mettre une demi-baguette d'hier qui a un peu morflé. Car oui, selon les conseils de cette dame, en plus de pas être prioritaire, les couples homosexuels devraient s'ouvrir à l'adoption d'enfants au profil atypique. Ah d'accord, atypique, c'est un mot sympa pour désigner un enfant qui a des besoins spécifiques. Par exemple, si l'enfant a un handicap, si votre modem ou si c'est un Kids United. Sainte Marie de la Mecque, atypique, quelle hypocrisie. J'avoue, ça me fait le même effet quand je me suis fait larguer par mon ex et qui m'a dit T'es une belle personne. Cette fameuse offre 2 en 1 de la société française. Pour un droit obtenu, une discrimination vous est offerte. C'est déshabiller Pierre pour habiller Paul et après tout le monde s'étonne de les retrouver à poil sur un char à la Gay Pride. En théorie, les couples homosexuels ont le droit d'adopter, mais la réalité est tout autre. Si on était vraiment honnête, on ajusterait une astérisque au texte de loi. Offre soumise à condition, sous réserve d'éligibilité par une vieille connasse homophobe dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d'accepter un enfant qui n'aura pas été choisi par les couples hétéros et de ne pas l'habiller comme Edith de Préto. Et l'égalité des chances, après ça. Hein? Un enfant atypique devrait avoir les mêmes risques que les autres de tomber dans une famille d'extrême droite ou d'être suspendu à un balcon pendant que son père joue à Pokémon Go. De quoi avons-nous peur vraiment? Non, le seul problème des enfants élevés par les homosexuels, c'est qu'à 4 ans, ils s'habillent mieux que nous tous réunis. Alors, les propos tenus par cette dame ont été condamnés par le président du département de Seine-Maritime, mais les discriminations subsistent encore, puisque le nombre de couples homosexuels ayant adopté depuis 2013 est inférieur à 10. En signe de protestation, j'ai décidé de me faire adopter par un couple de lesbiennes. Par contre, je suis hyper atypique, je préfère vous prévenir, j'ai un sein plus gros que l'autre et quand je pleure, je fais de l'aérophagie. J'ai aussi des besoins hyper spécifiques, notamment en argent et surtout énormément d'amour à donner à mes futures nouvelles mamans. Maman, désolée, je sais que tu comprendras. Et pour la marche des fiertés le 30 juin, merci de venir avec des bonnes chaussures car visiblement la route est encore longue.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Ouais.
Oh.
C'est génial. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Parce que j'ai chopé là-dessus.
C'est vrai ?
Comme maladie.
Ça, Bérangère, vous en rendez pas compte, c'était un énorme succès dans les années 70-80, fin 70-80, ouais, c'est ça.
83.
Tu dis, tu dis n'importe quoi. Mais vous, j'imagine que c'est pas pour les années 80 que vous avez aimé ça.
Non, mais c'était dans la BO de Kill Bill.
Ouais, énorme.
Et voilà.
Et le film vous a marqué ?
Le film m'a marqué, et après j'avais à l'époque une Punto, une Fiat Punto,
et
j'avais un lecteur CD, et voilà, hein, c'était parti, donc c'est mes premiers émois sur la route.
Et on est en 2005, vous venez à Paris, et vous vous inscrivez à l'académie, je crois, Oscar Sisto.
Oui, c'est ça.
Et puis pas simplement Oscar Sisto, il y a d'autres écoles, je pense que vous faites un peu...
Je suis la grande étudiante du théâtre.
C'est vrai.
Il fallait toujours que j'apprenne. J'ai fait quoi, un cours qui s'appelait Le Cours. On dit comment qu'on va l'appeler notre cours de théâtre,
ben,
le
à l'école
cours. Voilà le cours. Et après j'ai fait l'école du one man show.
Vous pensez quoi de tous les copies comiques, de toutes les balances faites sur ceux qui copient les sketchs ou les vannes aux États-Unis?
Bah non, moi je pourrais pas jouer à un spectacle qui a été pompé par
quand vous avez des auteurs, vous savez pas forcément d'où viennent leurs vannes.
Bah moi j'ai un auteur qui est pas du tout pour le principe, donc du coup j'étais
il
connaît pas. Non. Après,
parce que c'est quand même très violent ce qui est balancé par ce monsieur-là.
Oui, c'est vrai que j'ai vu.
C'est pas ce que balance le monsieur qui est violent.
Oui, pardon.
C'est la pratique de certains humoristes.
Le fait que ça se passe, ouais.
En fait, il y a eu le truc avec Internet et d'un coup, ça fait. On est tous au même endroit.
En fait, dans le sérail, on était quand même tous déjà plus ou moins au courant de qui faisait quoi. Et en fait, il a juste mis la lumière sur un phénomène. Mais en fait, les noms qui sortent, c'était des gens.
C'est pas des surprises, tu veux dire.
On l'attendait. C'est-à-dire qu'il y a même à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui doivent se dire ok, là, je vais être
c'est
le
prochain. C'est bientôt moi, c'est le MeToo.
Parce que voilà, c'est sûr.
C'est le MeToo comique.
Ouais, on a inventé un croque-mitaine pour humoriste.
Ouais.
Te fais pas choper par comique.
Oui, non, mais après, je vois pas l'intérêt, moi, de jouer quelque chose qui a déjà été joué. Enfin.
Bon. Bah le succès, ils y ont trouvé un intérêt vraisemblablement, s'ils l'ont fait.
Ah oui, et puis surtout je pense que ce que dénonce Copie Comique, c'est le fait que ça marche, et du coup c'est dire aux gens, au public, attention, vous riez à des blagues de Eddie Murphy et de Chappelle.
Si je peux me permettre, dès l'instant où elles sont bien jouées et une bonne
majorité. Il faut juste le préciser.
Non, mais une bonne blague. Une bonne blague. Ouais. Quand un copain vous raconte une bonne blague, vous ne lui demandez pas si c'est lui qui l'a inventé. C'est forcément quelqu'un d'autre qui lui a raconté.
Il y a moins d'enjeux.
Avant.
Sauf qu'on n'était pas payé pour le faire.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, à moins que tu rançonnes tes copains.
Je suis moins sévère. Ça me fait rire. Après, mais je comprends, c'est votre métier. Votre métier est d'écrire aussi, de trouver les vannes.
Malik Bentala, à un moment donné, il parle de son père. Et il cite.
Les savates, les pantoufles,
les rues pavées d'or. Et en fait, c'est une anecdote que Burt Reynolds a sortie sur son propre père. Donc là, là, il y a quand même un vrai problème, parce que Burt Reynolds écrit une biographie et il parle de son père. Et donc, on peut pas être plus investi. Et t'as un humoriste qui reprend exactement la même vanne pour la mettre dans son spectacle en parlant de son père. Donc, où est la vérité? Enfin, là, il y a un problème d'authenticité. une blague, c'est pas un morceau de vie.
On est d'accord. Et puis c'est encore un copain qui fait gratuitement, qui te raconte une blague, c'est pas un spectacle c'est où tu fais la queue, où tu payes un ticket.
Mais après, c'est une chose de s'inspirer des gens qu'on aime et de parce que tout le monde s'inspire de tout le monde. Mais
ça s'appelle les influences, ouais.
Oui, mais après de copier mot pour mot, littéralement, des 10 ou 15 minutes, c'est autre chose.
Après, je crois aussi au truc des idées qui volent.
Le
cloud.
Non, mais il y a un cloud d'idées. Et c'est pour ça que souvent, quand il y a des découvertes, même scientifiques, etc., toujours deux personnes en même temps, je pense qu'il y a des choses qui. En même temps. Mais quand c'est décalé dans.
Alors fais attention, parce que le cloud de vannes, c'est Kairon qui fait ça au début de son spectacle en disant j'ai un cloud avec plein de vannes et je vais les sortir, elle est piochée dans mon cloud. Donc fais attention. Voilà.
Mais c'est Kairon qui écrit tous nos textes, de toute façon.
Bah oui, c'est ça. Voilà, faut le dire. Tu vois, comme quoi ça va vite.
En 2005, Grégory Fitoussi, vous écoutiez.
À part fumer des spliffs, mon premier kiff c'est de chiller, rester tranquille au sein des miens, me laisser aller à déballer.
Ça va bien avec l'UMP, ça.
NTS.
Et tu faisais des grandes randonnées en forêt et en montagne. Bien respirer l'air, non?
Ouais, non, mais c'était pas spécialement Passe le Ouinche d'ailleurs. Mais ouais, j'ai toujours été fan d'NTM, moi.
Et de la drogue un peu, non?
Et quand vous écoutez,
des chaussures surtout.
Quand vous écoutez ce morceau, vous trouvez. Vous avez quoi comme image?
Non, mais c'était une époque. Et puis
c'est
mais
justement, vous retrouvez dans
est-ce
une
situation. C'est un souvenir un peu embué.
Dans une situation.
Ça, c'était l'époque dans Grenage, c'est ça? Ouais, bah je sais pas, ça me fait référence à cette époque-là. Au début, je crois que c'était vers 2005-2006. Mais j'écoute depuis toujours NTM, moi j'ai toujours été.
Et quel souvenir vous gardez de votre période en Grenage, justement? Vous incarnez ce substitut du procureur sur je ne sais plus combien de saisons.
J'en ai fait 5, je suis parti à la 5e. Ouais,
c'est ça. Ouais. Ça a continué un petit peu après vous.
Ah bah il continue moins bien.
Il
continue de tourner. Ah bah non, moi je trouve que ça continue d'être très bien. J'aurais préféré que ça vienne moins bien.
Pour vous faire plaisir, mais si vous avez envie de pas de problème.
J'aurais préféré
mieux, non, Fred?
Justement, pourquoi vous l'avez arrêté cette série? Pourquoi vous l'avez arrêté?
J'ai arrêté parce que j'avais envie de faire d'autres choses, tout simplement.
Ça prenait trop de temps.
Ça prenait beaucoup de temps, mais c'était pas tellement le problème. J'ai un souvenir très joyeux et très. Je m'entendais très très bien avec tout le monde, et puis je trouvais que c'était une série de grande qualité. Mm-hmm. Je le pense toujours. Mais non, j'avais envie d'ailleurs, c'est tout quoi. J'avais envie de jouer d'autres choses que cet avocat que j'ai beaucoup aimé interpréter, mais je l'ai fait 10 ans, c'était.
Ouais, c'est ça, de 2005 à 2015.
Mmh. En 2011, Bérangère Kiev, vous écoutez justement Lady Gaga.
Alors voilà. Ah.
Donc fan de Lady Gaga, quoi.
Pas du tout.
Dont on entend un tout petit peu moins parler en ce moment, ça vous chagrine?
Si, elle joue, dans un très grand film avec Bradley Cooper, qui va sortir, il paraît que son interprétation...
Ah, qui va sortir,
ouais.
Ah d'accord.
Et c'est vraiment excellent.
Mais en termes de disque, de tube,
elle a fait un album, mais qui a moins bien marché, je crois.
Très bonne comédie.
Et on est en 2011 et vous, Bérangère, vous fondez le Connasse Comedy Club.
C'est vrai, avec mes copines Anne-Sophie Girard, Nadia Rose et Christine Bérou.
C'est quoi ça?
En fait, nous, on était quatre copines, on avait un spectacle de One Man Show. Et puis, on s'ennuie un peu des fois toutes seules. Et donc, on crée une sorte d'alliance, une sorte de récréation tout en jouant. Donc on joue un peu de nos spectacles respectifs et on s'écrit des sketchs, des intersketchs ensemble. Et voilà, je sais plus, on était ensemble, on se dit comment qu'on va appeler ce spectacle.
C'est quoi des intersketchs?
C'est entre les sketchs.
Oui, mais...
En fait, chacune joue 10 minutes de son spectacle. Et pour lier le tout, on écrit des intersketchs.
D'accord.
Une intro.
Des enchaînements entre deux sketchs.
Ouais, exactement.
Des transitions pour que ça soit lié, que ça soit une sorte de spectacle total.
Oui,
quoi.
Oui, oui.
De la fluidité. Quoi.
Et pourquoi,
Daniel.
Et pourquoi le Connasse Comedy Club?
Je sais pas, on était en réunion, on s'est dit comment on va.
En réunion.
Et j'ai vu, il y a quelqu'un qui dit Connasse Comedy Club. Et
mais c'était avant ou après qu'Anne-Sophie ait fait La femme parfaite?
Non, c'était avant, juste avant, ouais. Et tout le mouvement Connasse, les colliers Connasse et tout, c'était vraiment avant quoi.
Et c'est quoi votre point commun à toutes les quatre dans l'humour? Parce qu'on crée des sortes de familles aussi au sein des one man et des one woman.
Une espèce d'autodérision quand même.
Ceux qui s'inspirent de la vie ou qui parlent beaucoup de la condition de la femme. D'autres qui vont, quand je pense à Frédéric Sigris par exemple, il y a une dimension.
Je pense à Connasse quand je
me pose. Non mais oui, qui vont être plus engagés.
Non, dimension un peu plus politique, voilà, comme un peu Tanguy.
Nous, on n'était pas très politique. Ouais. Et puis, je sais pas, à l'époque, on devenait féministe, donc on n'était pas très affirmé dans notre engagement. Ouais. Juste, on parlait de ce qu'on connaissait, de ce qui nous animait. À Christine, c'était la caution vegan, mais elle est devenue beaucoup plus vegan après.
On peut être plus que vegan ?
Non, mais vegan engagé. Enfin, je crois qu'elle est devenue vegan pendant qu'on jouait.
D'accord,
tu vois.
Okay.
Donc, voilà. Et après, c'était des situations de femmes, mais il n'y avait pas de. Ouais, non, j'avais pas de sujet précis. Et ça, n'arriverai pas au bout de cette phrase.
J'ai du mal avec les mots, quand même.
Oui, hein.
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
Je sais, vous êtes bien, vous êtes à la cool dans la bande originale, mais vous serez encore mieux après Hills. Today is the day. Today is the day, c'était Hills dans la bande originale. And this minute, c'est pour toi, c'est cadeau, c'est Tanguy Pastureau.
Oui, on le voit plus, lui, notre ex, que notre actuel. Moi, ça me donne l'impression que je suis en train de tromper Macron pour me faire pardonner. Hier, je lui ai envoyé des fleurs avec un mot disant « Tu sais ce que c'est, vieux, c'est le printemps. J'ai le bas-ventre qui frétille comme un merlu tripoté sur Thalassa par Jean-Pierre Dick. » En deux mois, Hollande a accordé 31 interviews. France 2, Inter, Midi Libre, BuzzFeed, l'équipe, C8. Si le journal de Mickaël sollicite, il fait la parade à Disneyland à côté de Pluto. Lui n'aura pas besoin de costume, il est déjà rigolo. Et hier, il était à Lille, la ville de Martine Aubry, la dame qui n'a jamais souri, pour sa 43e séance de dédicace de son bouquin, qu'il écoule comme de la cocaïne au Festival de Cannes. Et du coup, ça le rend fou, il pense qu'il est populaire, mais il ne se rend pas compte que si c'est Daniel Evenou ou Vincent McDoom qui vient signer, il y a autant de monde, parce qu'en province, dès qu'il y a de la star, on y va par curiosité, mais comme au zoo, hein, sauf que le bestiau à Maté est moins beau. Moi, j'ai habité 2 ans Château-Gontier en Mayenne, je peux vous dire que quand Didier Gustin est venu, il y avait la même même effervescence que si c'était Jagger qui avait déboulé en cherchant le seul gonze qui se pique derrière le bibliobus pour lui taxer de l'héros. Donc Hollande, dans sa tête, s'enflamme. Il est dans le même état psychique qu'Alain Juppé quand Virginie Calmels lui caresse le crâne en disant « T'avais raison, bébé, Wauquiez, c'est une brute, toi t'es doux, mon vieux chat ?» À tel point que selon un de ses ministres qui témoigne sur France Info, il se prépare. La radio lui demande « Mais à quoi ?» Le type répond « Lui-même ne le sait pas encore. » Si ça se trouve, Alain Duhamel gobe de la DHEA en se disant « Faut que je tienne encore 4 ans pour voir le retour de Fanfan », alors que l'autre va juste ouvrir un kebab. Bref, samedi, Hollande était encore en interview dans Thé ou Café, l'émission télé où seuls les chieurs demandent un chocolat. L'émission, pour l'occasion, s'était déplacée à Tulle, en Corrèze. Hein, la tanière de Hollande, il a creusé un trou dans le sol là-bas, a mis des fougères au fond et dort dedans roulé en boule. Donc là, Hollande se retrouve face à Catherine Sellac, qui va pas l'interroger sur la politique. Elle s'en tape la hanche droite avec un râteau à feuilles, comme dirait personne, puisque je viens de l'inventer. Sellac, elle est dans l'intime. Ce qu'elle aime, ce sont les failles, les blessures. Thé au café, c'est comme une psychanalyse, mais avec des miettes de croissant entre les dents. Et là, Hollande se lâche, telle une gastro mal gérée, et il parle des femmes de sa vie.
Donc j'imagine qu'il parle de Ségolène Royal.
Oui, avec qui il a eu 4 enfants. Hein. Ils se sont dit qu'à terme, le seul moyen pour qu'il reste des socialistes, c'était de les faire eux-mêmes. Ségolène Royal, qu'il a quitté pour Valérie Trierweiler, qu'il a quitté pour Julie Gayet. Ce monsieur, c'est un tombeur. Hein. En 92, il aurait pu faire du raga, entouré de filles qui bougent du boule et chante Mr. Loverman,
François.
Hein. Donc là, Catherine Sellac se dit, il va pleurer dans son café en pensant au mal qu'il a fait à ces pauvres dames. Ségolène Royal ne s'en est jamais remise. Hein. Là, elle vit seule au pôle Nord, entourée de lutins du Père Noël qui glandent en fumant des spliffs parce que leur prochain CDD est dans 6 mois et demi. Mais non, Hollande répond, oui, c'est sûr, c'est pas facile les ruptures. Il ne sait pas, ça lui est jamais arrivé. Même nous, on n'a pas pu le plaquer, il s'est cassé avant. Sellac lui dit, et Julie, alors tu l'aimes, mon salaud? Ou un truc dans le genre. Hein. Et Hollande, qui est le mec le moins passionné du monde, hein, il dégage la même fièvre qu'une enclume suédoise, répond, la vie n'est jamais écrite. Hein, autre manière de dire, louloute, je vais pas te mentir, si demain Gisèle Bündchen sonne à la Casbah et que je suis en slip, je suis pas certain de le garder. Lui, il est honnête, hein, la fidélité, il sait que c'est pas pour lui, donc il va pas chez Leclerc Mariage prendre le catalogue des robes. À propos de mariage, Hollande et Gayet samedi étaient à celui de Franz-Olivier Gisbert à Marseille. Il y avait plein de monde, hein, Estrosi, le brushing d'Estrosi, Laurent Geoffrin, bref, le plus jeune avait 76 ans, et Hollande logeait au Sofitel, hein, la chaîne d'hôtels officielle des shows du pelvis. C'est là que DSK avait joué à chat avec une dame qui, si on lui avait demandé, aurait confirmé qu'elle préférait passer l'aspi. Sofitel de Marseille, où Valérie Trierweiler, attention, était aussi ce week-end pour un festival du livre. Bref, c'est trop compliqué. Avec Macron, il y a juste une dame, Brigitte, avec qui c'est pour la vie. Donc que Hollande ne revienne jamais, parce qu'on ne pourra jamais suivre. Je lui conseille d'ouvrir un kebab.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Je trouve qu'on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de se demander qui était Homer. Ce sont un peu des discussions de spécialistes et d'universitaires. Alors que vous l'avez dit, la vérité de l'Odyssée et de l'Iliade, c'est la beauté. C'est la beauté des vers. Il faut ouvrir ce texte, les lire par exemple à haute voix. Et à ce moment-là, on peut se contenter de l'incroyable splendeur de ce qui ressort, même musicalement, de ces alignements de vers.
Vous parlez de Philippe Jacotet et de Philippe Brunet, c'est les deux auteurs, les deux traductions que vous avez choisies, qui sont ouais. Très belles traductions.
Oui, ouais. Brunet a dédié sa traduction à la lecture à haute voix qu'il pratiquait lui-même. Mm-hmm. On appelait un Aède, ouais. un poète pendant la Grèce antique, et un Aède, c'est quelqu'un qui lit à haute voix. C'est très récent, la lecture.
Ça change quoi?
La lecture silencieuse. Ben, ça change d'abord qu'on destine aux dieux sa lecture. On devrait d'ailleurs crier toute la journée à haute voix les poèmes, la poésie. Quand vous lisez...
C'est Flaubert qui avait son gueuloir.
Oui, il fait son gueuloir. Ouais. Parce qu'il s'apercevait, quand il lisait les phrases à ses camarades, enfin, ses camarades, c'était Tourguenieff, Émile Zola et Maupassant. Alors, c'est évident que l'assemblée à qui il destinait la lecture de ses textes était évidemment assez... pouvait être sévère. Mais on s'aperçoit de des erreurs que l'œil ne voit plus quand on lit silencieusement, quand on les destine à la voix haute. C'est un extraordinaire instrument, la lecture à voix haute, de perfectionnement. Vous qui êtes perfectionniste, vous devriez...
Non, mais ne le croyez pas.
Vous exprimer à voix haute, d'ailleurs, c'est ce que vous faites.
Pas, ne le croyez pas. Si j'étais perfectionniste, vous doutez bien qu'ils ne seraient pas tous là autour de cette table. Vous dites que le fait de déclamer donne une autre dimension, un autre pouvoir aux mots, et pourtant, ce n'est pas la même langue, la langue écrite et la langue parlée.
Oui. Non, mais c'est vrai. Mais Homère va même plus loin que cette nécessité d'encourager à lire. Il dit que l'une des catégories, l'un des critères de l'héroïsme, c'est la capacité de bien parler, la belle langue. Et on voit dans l'Iliade des moments qui pour moi sont les plus beaux, mais il est vrai que je prêche pour ma paroisse c'est les mots, c'est la langue, c'est le verbe. On voit parfois les troupes des Grecs qui sont complètement épuisés, parce que ça fait 10 ans qu'ils se battent, ils ont envie de rentrer chez eux. Et à ce moment-là, il y a un héros qui arrive, qui se met sur la barricade, et qui leur fait un discours splendide. Ça peut être Agamemnon, ça peut être Ulysse. Et tout à coup, la troupe est galvanisée par le verbe. Et moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Parce que nous sommes tellement ensevelis par l'image, aujourd'hui, depuis quelques décennies, on se demande si le verbe serait encore capable de nous électriser.
Sauf que c'est un verbe insufflé par les dieux, parce que Ulysse est le réceptacle d'Athéna, c'est la ruse, et c'est Athéna qui le fournit en idée.
Donc
c'est
le manipule, donc.
Il y a une forme de manipulation qui l'alimente, en fait. Donc il y a aussi c'est ça qui est paradoxal. On s'attache énormément à des personnages, et au fond, ils sont un peu des marionnettes, et ils sont le réceptacle.
Ils sont le porte-voix.
Ouais, le porte-voix.
Ils sont la caisse comme de la
résonance. Comme la aide et le porte-voix de ce récit initiatique.
Et même le conflit,
initiatique.
De toute façon, c'est à la base une manipulation des dieux, vu que ça a été le choix
de Paris. Mais c'est toute la question grecque de la liberté, c'est-à-dire est-ce qu'on est les souverains de nous-mêmes, ou est-ce qu'on est des pauvres pions sur l'échiquier où les dieux s'amusent à jouer aux dames, quoi.
Encore un discours très actuel.
Oui, bien sûr, et c'est un discours qui est actuel, qui est un discours de l'actualité, mais qui est un discours qu'on peut avoir à l'égard de soi-même devant sa glace le matin. Quoi. Qu'est-ce que je fais de ma journée? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis le maître de moi-même, ou est-ce que je suis la marionnette de toutes les courants qui me traversent?
La bande originale, les meilleurs moments sur France Inter.
J'aurais tellement aimé qu'on puisse continuer sur cette belle lancée, et malheureusement, je n'ai que Guillermo Guise à vous proposer.
Ça va les amis, vous allez bien? En ce moment, les gens me demandent toujours, alors, ils me demandent c'est pour quand cette démission? Je leur dis, bientôt, ne soyez pas aussi fougueux, les gens. Mais avant de quitter Inter et d'aller rejoindre Jérémy Crédville sur Pétanque FM, la radio qui parle de boules, toutes les boules. Non, je voudrais vous parler 2 secondes de foot, justement. Et de Coupe du Monde. Ah, trop bien, ça nous changera de tes billets sur les pignons de pain, ça, le végétarien en plastique. Ça va, t'as pas craqué? Tu manges toujours plus d'animaux décédés? Non, ça va, je tiens le coup. 2 mois.
J'ai vu, mais tous les réseaux reprenaient le fait que tu me copies.
16 secondes. J'ai faim, putain. Non, en vérité, j'ai vu le match de la France ce week-end. Et j'ai une question. Qu'est-ce qui vous arrive?
Quoi?
Elle est où la France, flamboyante et fière d'elle-même et triomphante et dominatrice et flamboyante et fière d'elle-même et triomphante et dominatrice? Je parle pas au niveau du jeu, hein, je parle au niveau des commentaires. Je crois que c'est officiel, vous êtes les commentateurs les plus dépressifs de toute l'histoire du football, en fait. Franchement, c'est l'ambiance sur TF1 samedi. Ça m'a rappelé la mort de mon père, en fait, vraiment. Je vous promets qu'à l'enterrement de mon père, les gens étaient de meilleure humeur, franchement. Et pourtant, on était quand même bien dégoûtés. Je dirais, il n'y a pas d'héritage et tout, franchement. C'est bien foutu notre gueule, celui-là. Mais vraiment, mais. Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu, je les aime bien, mais à un moment, je me suis. Ils vont se suicider, en fait. Vraiment, on va vivre un moment historique, ils vont se foutre en l'air. 1-1, je crois que Margoton, il fait « Si la France doit quitter ce premier tour, elle le fera à 23. » Mec, c'est le premier match de la Coupe du Monde, t'es même pas mené au score, tu vois, tu parles déjà de quitter le premier tour, c'est quoi ce défaitisme? On aurait dit Leïla quand quelqu'un lui fait, oui, bah, Laurent Deleuze, il présentera pas le JT toute sa vie, t'inquiète pas, et qu'elle dit, si, je le connais, il lâchera rien, ce bâtard. Je suis condamné à faire des mes oreillons siffler, dans une émission de branquignoles pour toute ma life. Je suis foutu, même pessimisme. Je vous promets, Margoton, il a sorti des phrases mythiques, genre « La maison France est en danger ». La maison France, je me disais, putain, ça y est, il est pas mort, le maréchal Pétain. En fait, il commande des matchs sur TF1, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça, je peux vous garantir, en Belgique, il n'y a personne qui dit « La maison Belgique est en danger ». Chez nous, il n'y a pas de maison. Au mieux, il y a une hutte ou une roulotte, enfin, c'est tout ce que tu peux avoir. Mais allez, quoi, un peu d'entrain, putain, ça peut arriver d'être poussif contre une équipe... regroupé, solidaire. Ah,
ils avaient mis le bus devant le.
Mais voilà,
le
regardez bus, la Belgique hier, par exemple, la première mi-temps. Franchement, elle m'a donné envie de crever dans une pisciculture. Vous en avez parlé. En plus, on n'a pas tous la chance d'avoir des joueurs de classe mondiale, genre Hazard, De Bruyne ou Lukaku. Vous faites avec vos moyens, c'est mignon. Moi, j'adore. Mais il est où votre goût de la supériorité? Limite, je regrette Thierry Roland.
T'as oublié Courtois et Meunier quand même.
C'est vrai, on est fort. Mais il est où votre goût de la supériorité? Moi, je regrette Thierry Roland. Tu vois, il insultait l'arbitre et tout, il se moquait du physique. Il était nostalgique des colonies. Ok. Mais bon, au moins il y avait de l'enthousiasme, quoi. C'est vrai, je vous jure, en Belgique, on avait bien détesté Thierry Roland.
quand Jean-Michel Larquet, on le regardait exprès sur TF1, on s'est dit, putain, les Français, comment c'est des grandes gueules. Regarde comment ils sont chauvins, ils se la pètent et tout. Aujourd'hui, franchement, c'est l'extrême inverse, quoi. C'est la Coupe du Monde, la contrition. Franchement, vous êtes là, c'était tellement la dep sur TF1 qu'à un moment, j'ai fini par regarder France-Australie sur une chaîne belge. Je me suis dit, il y aura plus d'ambiance. Et c'est, alors que le commentateur, il était seul. Commentateur belge, il y avait plus d'ambiance. Seul dans sa cabine, comme Daniel Morin à Pigalle quand il met 4 sous pour essayer de jouir. Seul dans sa cabine, franchement, c'était hyper glauque. Et pourtant,
on a l'image, c'est monstrueux.
Même seul, il était plus motivé que vos commentateurs. Et ils l'ont reconnu à la fin, Margoton et les Arasou. Ils ont dit, on aimerait bien se libérer, mais on est tout noué. Putain, qu'on lui renvoie du poppers, quoi, merde, Nagui, faites quelque chose. Je sais que vous avez des contacts en Russie avec le milieu des stupéfiants et tout. Envoyez-leur du tonus, c'est pas possible. On aimait bien vous détester, là, on a envie de vous consoler, quoi. Ça va plus, c'est plus possible.
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Attention, on arrête tout. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Moi. Mais qu'est-ce qu'il foutait là ? Il, c'est Albert de Monaco qui a passé la journée d'hier dans l'Essonne.
Ça y est, elle est là.
L'Essonne ! Il est allé à Longjumeau, Massy, Chili-Mazarin. Bon, ok. Il est comte de Longjumeau, marquis de Chili, duc de Mazarin, baron de Massy. C'est vrai, j'ai vérifié. Mais c'est pas une raison pour passer une journée entière dans l'Essonne ! Quand t'es prince de Monaco, tu vas pas passer une journée entière dans l'Essonne ! Personne veut passer une journée dans l'Essonne ! Même les habitants de l'Essonne, ils veulent pas rentrer après le boulot ! Quand t'es milliardaire, tu vas pas passer une journée à visiter un département de pauvres ! Est-ce que Nagui va visiter le Val-de-Marne ? Non,
j'ai habité au Val-de-Marne.
Il y va pas. Déjà, il sait pas que ça existe, le Val-de-Marne, si. Nagui.
94.
Alors, pour en venir, les lettres, pour en venir à Albert, à Monaco. Il est prince, il a un palais. En ce moment, il fait hyper beau. Les Hongroises, les Ukrainiennes, elles sont toutes en terrasse. En plus, il a une fondation en lui avec des animaux marins. Il peut passer ses journées à boire des coupes en jouant avec ses amis les dauphins, les otaries, les marsouins. Qu'est-ce qu'il est parti se perdre dans l'Essonne, le gars ? Je l'imagine, le pauvre, à la descente de la limousine quand il est rentré dans la mairie de Longjumeau, au bras de Stéphane Bern, son meilleur ami, pour le pont d'accueil servi par la maire de la ville.
Bonjour, rentrez, Altesse, mettez-vous à l'aise.
Qu'est-ce que c'est que ces gens étranges, Stéphane, où je suis ?
C'est l'hôtel de ville, Altesse.
Qu'est-ce que je dois faire ?
Prenez le gobelet, trouvez une gorgée, mais n'avalez surtout pas. Vous retournez, vous crachez dans ma poche. On reste juste une minute, on file à l'hôtel, vous désinfectez.
Ah ben, quand t'arrives directement du palais de Monaco à la mairie de Longjumeau, c'est le choc. Heureusement, il y a l'hôtel pour faire une pause.
Tu sais, j'ai un peu peur de cet endroit, mon Stéphane.
Moi, je sais, Majesté, je sais. Mais quelle idée aussi de vouloir venir dans l'Essonne. On aurait pu aller à Genève ou à São Paulo.
C'est quoi comme hôtel ?
C'est un Formule 1.
Oh, ils ont un Grand Prix automobile à Longjumeau ?
Non, c'est juste le nom de l'hôtel.
C'est un palace, combien d'étoiles ?
Il n'y a pas d'étoiles dans un Formule 1. Non, ça va au-delà des étoiles. Vous attendez pas au grand luxe. Hein. L'Essonne est une région frustre, peu développée culturellement. Le niveau de confort du département est semblable à celui du 12e siècle.
Je suis sûr que ce sera parfait. Je suis peut-être un prince, mais au fond, je suis resté un mec simple. J'ai hâte de découvrir l'endroit.
Mais parfois, quand la hâte s'arrête, elle laisse place à la stupeur.
Il est plutôt pas mal le local à vélo. Montrez-moi la chambre maintenant.
Mais c'est votre chambre, Altesse.
Ah, qu'est-ce qui se passe, Majesté ? Vite, mes selles, je me sens pas bien.
Je vous l'avais dit, il faut pas rester ici.
Vite, un bain glacé, je convulse. De suite, Majesté, de suite. Venez vous tremper.
Mais je vais pas prendre un bain dans le bidet. Mais c'est la baignoire, Majesté, c'est la baignoire.
Bon, tout s'est arrangé, pas de panique. Un hélicoptère est venu chercher le prince. 4 heures plus tard, il était de retour dans sa piscine. Piscine qui, en gros, fait la surface de Longjumeau tout entier pour jouer avec ses dauphins et tout est bien qui finit bien. Maintenant, faut arrêter les conneries, d'envie exotique, mon prince. Un jour, vous allez avoir un pépin. Je tiens quand même, avant de conclure, à préciser et à signaler que pendant que je finissais cette chronique, intrigué, Nagui s'est renseigné sur le Val-de-Marne par téléphone et il a acheté Créteil pour en faire un parking. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et le meilleur de la bande originale aussi. Meilleur de la bande originale, réalisé par des doigts de fée, ceux de Marie-Annick Rimbaud. Je vous rassure, nous serons de retour avec Leïla dès lundi, 11h, avec Anaïs de Moustier, Grégoire Ludig et Nagui comme envoyé spécial en Russie. Oh, j'ai hâte que ça commence. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain, 17h, dans Vous les femmes, l'émission préférée, j'ai entendu dire, d'Arlette Laguiller et de Maître Gims, qui paraît-il serait ensemble.